Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Pas d'affiches, pancartes et photos attestant une propagande de pré-campagne des acteurs politiques sur les voies publiques. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ordonne à l'ANR, à la DGM et à la PNC d'enlever toutes ces images et inscriptions des voies publiques sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur appelle tous les acteurs politiques à attendre le début de la campagne électorale dimanche prochain pour se lancer dans la propagande. Les investisseurs qui viennent en RDC doivent faire en sorte que les populations qui sont directement impactées par l'exploitation minière accèdent aussi à la prospérité. Plaidoyer de Fabien Mayani, directeur des programmes industrie extractive du Centre Carter RDC, un des panélistes du Forum sur la paix qui s'est clôturé hier à Paris en France. Guélon Swanda est l'invité de ce journal. Il est assistant technique de l'Institut international de l'agriculture tropicale de la province de la Tchopo. Il va parler du lancement cette semaine du projet d'incubation des jeunes à l'agro-business. Bonsoir à tous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ordonne à l'Agence nationale de renseignement, à la Direction générale des migrations et à la police nationale congolaise d'enlever toutes les affiches sur les voies publiques, les pancartes et les photos attestant une propagande de pré-campagne de la part des acteurs politiques et autres leaders. Cette mesure est contenue dans un message datant du 10 novembre dernier et publié sur les réseaux sociaux. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur appelle tous les acteurs politiques à attendre la campagne électorale pour se lancer dans la propagande comme le prévoit la loi. La campagne électorale devra commencer dans une semaine, soit le dimanche 19 novembre. On écoute professeur Norbert Yamba au micro d'Alain Irung.
Et donc, les acteurs politiques ont profité, je ne sais pas de quoi, pour commencer la pré-campagne, qui du reste n'est pas statutaire ni réglementaire. Et voilà, l'autorité, à cause de cette confusion, qui risque de remettre en question la loi telle qu'elle est prescrite, elle a donné des instructions aux services que vous avez cités, aux commissaires provinciaux de la police, etc., de veiller à ce que les différentes affiches ou tout autre acte qui fait l'objet, n'est-ce pas, d'une pré-campagne soit interdite jusqu'on attend le 19 comme prévu par la CENI. Voilà, donc je confirme l'authenticité de ces documents.
Quelle est l'opportunité maintenant, alors que pendant tout ce temps, vous avez laissé faire?
Non, on n'a pas laissé faire. Mieux vaut tard que jamais. Donc, bien entendu, lorsqu'il y a clameur publique, lorsque on observe effectivement qu'il y a une sorte d'extravagance dans ce qui s'est fait, qui frise une certaine dérive, il est très clair, n'est-ce pas, de rappeler à l'ordre les uns et les autres qui sont censés poser des actes contrôlés par rapport à ça.
La campagne électorale précoce à travers des banderoles et des affiches a été en effet plusieurs fois dénoncée par certaines structures de la société civile à travers le pays. Le vendredi dernier, au cours de la cérémonie de tirage au sort organisée par le CESAC pour les interviews avec les candidats présidents de la République, l'opposant Prince Epengé, porte-parole de l'AMUKA, avait aussi évoqué cette question. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
À ce qui concerne les panneaux publicitaires, monsieur le Président, je vous ai déjà suivi. Vous avez dit, vous n'avez pas la contrainte, vous n'avez pas la police. Si vous quittez les sauts de moutons de Mandela jusqu'à chez moi, lui mettez à échangeur, si vous avez 40 panneaux, 39 panneaux, c'est le visage de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ce sont des pratiques qu'on a condamnées sous Kabila. Avec Félix Tshisekedi ensemble, on ne peut pas comprendre cela. Vous devez veiller à ça. Et j'ai été annonceur également. J'ai travaillé pendant 15 ans avec Pierre-Jacques Chaloupa dans une des plus grandes sociétés publicitaires. À l'époque, en 2011, on nous avait arraché tous nos panneaux avec Chaloupa parce qu'on estimait qu'on avait mis les visages de Tshisekedi au monde. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des annonceurs qui nous disent qu'on leur a interdit de laisser les panneaux aux opposants. Et donc, voilà, veiller à ce travail-là.
Restons à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a échangé hier samedi dans la soirée avec les représentants des différentes confessions religieuses conduites par la ministre d'État en charge du portefeuille, également diaconesse. Adèle Kaïnda a déclaré qu'elle est venue avec cette délégation des serviteurs de Dieu auprès du chef de l'État puisqu'ils soutiennent le pays dans la prière pendant ce temps où il est agressé par le Rwanda. Pour sa part, le prophète Dodo Kamba a réaffirmé au sortir de cette rencontre le soutien des confessions religieuses au chef de l'État. On l'écoute dans cet extrait choisi par Alain Hung.
Les hommes des dieux peuvent avoir des petits différends entre eux, mais cela ne veut pas dire qu'on s'entraide des chiffres en même temps. On peut avoir des divergences sur de certains points de vue, nous restons congolais. Et nous regardons tous à la même direction. Nous savons juger les valeurs et le chef de l'État est une valeur. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une valeur que tous nous défendons unanimement, tous les hommes des dieux. Malgré nos petites divergences d'ordre dogme et doctrinal, d'autres d'ordre parfois administratif et les petites choses, mais nous restons tous convergents dans un même sens.
Toujours en ce qui concerne le processus électoral, notez que la CENI organise dès demain 13 au mercredi 15 novembre des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées avec les candidats présidents, les partis et regroupements politiques et la société civile. Pour en savoir un peu plus, suivez le deuxième vice-président de la CENI, Dr Didi Manaralinga, dans ses propos recueillis par Alain Irung.
À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et des contacts permanents avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité pour des élections inclusives, crédible, transparente et apaisée. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 au fleuve Congo Hôtel, tandis que le cadre de concertation avec les partis et les groupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur.
Fin hier à Paris en France du Forum sur la paix. Cette rencontre internationale a réuni plusieurs participants venus des quatre coins du monde, dont certains chefs d'État. Parmi les thèmes débattus, il y a eu notamment comment protéger la planète Terre contre le changement climatique. Et évidemment, la question de la transition énergétique en RDC s'est aussi invitée au débat. Pour Fabien Mayani, directeur des programmes Industrie extractive du Centre Carter RDC, un des panélistes, les investisseurs qui viennent au pays doivent faire en sorte que les populations qui sont directement impactées par l'exploitation minière accèdent aussi à la prospérité. On écoute Fabien Mayani, joint depuis Paris par Jean Gandou.
Nous avons partagé trois messages clés pour assurer une transition énergétique juste, notamment en faveur des populations congolaises dont le pays fournit une grande partie des minéraux critiques essentiels à cette transition énergétique. Le premier message que nous avons partagé, c'est que nous avons besoin des projets miniers qui sont équitables, des projets miniers qui sont gagnants-gagnants entre la RDC et les investisseurs qui viennent dans le pays. Le deuxième message concerne la nécessité de créer de la valeur ajoutée locale dans les chaînes d'approvisionnement, dans les chaînes d'exploitation de ces minéraux critiques pour que les Congolais tirent davantage profit, pour que les Congolais aient accès à la prospérité à travers l'exploitation de ces minéraux critiques. Le troisième message clé que nous avons partagé, c'est la nécessité de respecter, de protéger les droits humains dans les opérations minières, notamment à travers les impacts locaux. Comment assurer que l'exploitation de ces mines participe au développement local des populations, participe au respect et à la protection des droits des populations qui sont directement impactés.
Pendant ce temps, la fondation BK Carlos Yanda, basée au Katanga, appelle les opérateurs économiques de la RDC à investir dans le secteur bancaire. Selon Carlos Yanda, président de cette fondation, l'absence de banques de droit congolais ne facilite pas l'accessibilité au crédit à un taux raisonnable pour les investisseurs congolais. Il l'a dit hier ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Carlos Yanda est au micro de Paul Matendo.
Dans notre pays, nous n'avons aucune banque congolaise jusqu'à aujourd'hui. Toutes les banques sont les banques étrangères et même les poches privées des gens. Et sans banque congolaise, comment vous aurez des crédits dans ce pays? C'est difficile. Il faut au préalable créer une banque congolaise. Alors, une banque congolaise, on peut la créer ne fût-ce qu'avec 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, vous pouvez déjà créer une banque congolaise. Et c'est votre banque congolaise qui pourra donner les crédits aux jeunes entrepreneurs ou bien aussi aux femmes commerçantes ou à tous ceux-là qui veulent entrer, même à ceux-là qui font l'agriculture. En Zambie, on le fait. La Zambie, à tout moment, on appelle les agriculteurs, on leur donne un fonds et ce fonds-là aide à faire les cultures. Et après, ils commencent à rembourser petit à petit. C'est pour ça que la farine est plus facile en Zambie qu'au Congo. Et aujourd'hui, la Zambie est en train d'exporter plus la farine que nous importons ici chez nous au Congo. Alors moi, avec ma fondation, j'ai déjà réfléchi à ça parce que je suis en train de trouver des paramètres sur le plan microfinance.
La première participation au concours international d'affiches pour la paix des enfants âgés de 11 à 13 ans s'est tenue hier à Goma, au Nord Kivu. Ce concours a été organisé par la fondation du Lions Club, district de Goma-Gisenyi. L'objectif, selon les organisateurs, est de faire participer les enfants dès le bas âge à l'effort mondial pour la recherche de la paix, cela à travers le dessin. Un reportage de Bernardine Diambo.
Sur les 300 élèves présélectionnés dans 15 écoles de la place, 42 ont été sélectionnés, filles et garçons, pour participer à ce concours final. Ils sont répartis dans deux salles de classe à l'école primaire Mama Moulesi. Parmi eux figurent des enfants venus de l'éducation normale, des écoles de déplacés ainsi que les enfants vivant dans la rue. Silence total dans ces deux salles de classe. Chacun est concentré sur son papier blanc pour reproduire son image tout en tenant compte des trois critères du dessin. Ingénieur Chimbumbu Tambu Lorenzo, président Lions Club Goma, en charge du concours Affiche de la paix, explique.
On demande aux enfants de 11 à 13 ans d'exprimer leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils pensent de la paix? Comment est-ce qu'ils voient le monde demain? Comment ils voudraient que le monde soit? Et on fait participer ces enfants. Et au finish, il y a aussi des talents qui sont cachés, qui commencent par s'exprimer. Et on appuie vraiment ces talents. Donc d'une pierre deux coups, l'enfant, il contribue à la recherche de la paix. Mais de l'autre côté, s'il y a des talents, il faut faire promouvoir parce que derrière... Le gagnant, il y a une récompense en international de la Fondation de Lions Club International.
La Fondation Lions Club International prévoit donc récompenser la fiche gagnante avec 5 000 $ américains et un voyage pour l'enfant et ses parents à New York au siège des Nations Unies. Pour cette année, les thèmes retenus, c'est « Oser rêver pour la paix ». Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Parlons maintenant de cette école qui ferme ses portes au Nord Kivu. Créée en 2019, l'école primaire Saint-Jérôme de Butembo était destinée à l'éducation des enfants déplacés venus des différentes localités du territoire de Beni et même de la province de l'Ituri, fuyant le massacre des ADF. Cette école avait atteint un effectif de plus de 200 élèves, tous des déplacés, sans compter les enseignants et le personnel administratif. Au début de cette année scolaire, suite à des difficultés de fonctionnement et de la baisse de la qualité de l'enseignement, les autorités scolaire décide de fermer l'école. Quel est le sort de ces élèves et de leurs enseignants? Baudouin Mouindonguka, chef de la sous-division de l'EPST Butembo 2, explique au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Les inspecteurs, dans leur itinérance, ils ont constaté que cette école a de sérieux problèmes de manuels, problèmes de non-prise en charge des enseignants, aux difficultés de fonctionnement. Alors, suite à ces différents rapports des inspecteurs, on a jugé bon que vraiment cette école puisse fermer pour ne pas gâcher l'avenir des enfants. C'est ainsi que les enfants, nous les avons orientés vers 3-4 différentes écoles primaires publiques. Mais dans le suivi de ces enfants, ils s'adaptent bien. Les enfants n'ont pas assez de problèmes. Déjà même à la fin de la première période, les enfants se sont bien débrouillés. Les enfants sont presque à grande partie enfêlés, vulnérables. Il ne fallait pas, à part ce malheur qui leur est arrivé par la nature, qu'on puisse encore ajouter d'autres problèmes, des sous-qualifications, de l'enseignement de mauvaise qualité. Les enseignants ont été mis à la disposition de la coordination, qui nous ont promis que dès qu'il y aura des places vacantes dans les unes des écoles catholiques, on pourra faire appel à ces enseignants.
Actualité internationale. Les combats se poursuivent entre l'armée malienne et la coalition CSP-PSD pour le contrôle de Kidal. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus à une vingtaine de kilomètres de la ville, selon RFI. L'armée malienne, avec un appui important des mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner, a engagé une bataille contre les rebelles de la coalition pour le contrôle de Kidal. Ces derniers occupent la ville depuis 2012. Ville qu'a quitté la mission onusienne, la MINUSMA, le 31 octobre dernier. En attendant, les populations civiles continuent de quitter Kidal, où les lignes téléphoniques sont désormais interrompues. Des rares personnes utilisent le téléphone satellitaire.
l'invité.
Dans la province de la Tchopo, l'Institut international de l'agriculture tropicale a lancé le jeudi à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kisangani le projet d'incubation des jeunes à l'agrobusiness. C'était en présence des autorités politiques, académiques ainsi que du project manager de l'ITIA, Madame Liliane Togogo. En quoi consiste ce projet? Comment accéder à cette formation d'un mois et demi et quels en sont les avantages? Gaylor Nswanda, assistant technique de l'ITIA, et notre invité, il s'entretient avec Giacomo Concolé.
Guillo Nswanda, bonjour. Quel est l'objet de la présence de la délégation, la grande délégation de l'ITIA, ici à Kisangani et particulièrement à la Faculté des sciences de l'Université de Kisangani?
Ok, merci beaucoup. Comme vous dites, aujourd'hui nous sommes à Kisangani, c'est pour lancer le processus d'incubation des jeunes en agribusiness. Et l'ITIA est l'assistante technique au sein du projet PEJAB.
Qu'est-ce que vous entendez par l'incubateur?
L'incubateur pour nous, c'est des structures d'accueil des jeunes qui hébergent les jeunes, qui forment et qui accompagnent les postes d'incubation après. Parce que vous pouvez accompagner les jeunes, vous pouvez former les jeunes, mais s'il n'y a pas un accompagnement derrière, beaucoup de ces entreprises disparaissent, meurent, parce qu'il n'y a pas un accompagnement après.
Quel genre d'accompagnement?
Il y a l'accompagnement dans la mise en œuvre même de ces entreprises des jeunes. Puissent développer en fait leur clientèle, leur marché qui s'installe avec les entreprises qui puissent prospérer. Donc il y a l'accompagnement en termes techniques et puis il y a un accompagnement managérial. Et l'ITIA est l'assistante technique au sein du projet PEJAB.
Dès lors, quelle est la durée de cette formation?
Ok, la durée de la formation, c'est de 1 mois et demi pour la première cohorte et ensuite, il y aura les autres cohortes qui vont suivre.
Comment accéder à cette formation? Et c'est tout jeune intéressé que vous pouvez recruter?
Justement, ce n'est pas n'importe quel jeune on a sélectionné. Il y a un critère. D'abord, il faut être jeune, c'est-à-dire avoir l'âge compris entre 18 et 35 ans. Avoir un diplôme du niveau supérieur, être gradué ou licencié, être motivé, être disponible à suivre la formation pendant tous ces temps prévus par le projet.
Et la formation elle-même, comment sera-t-elle organisée?
Il y aura une première cohorte qui sera formée de 50 jeunes, dont 50% de femmes, qui vont suivre une formation accélérée dans les différents maillons des chaînes de valeur retenus ici à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kisangani. Et ensuite, il y aura une deuxième cohorte de 50 jeunes qui sera encore recrutée, sera formée, accompagnée dans les différents maillons, afin qu'ils créent leurs propres entreprises dans les domaines agricoles.
Quels sont les domaines de formation que vous avez retenus?
Il y a différents maillons qui sont choisis dans les filières agricoles. Il y a la transformation des manioc, la transformation de la banane, il y a la transformation des différents produits, légumes, fruits. Il y a également l'élevage, la pisciculture. Ce sont là les différents maillons qui sont sélectionnés au sein de ces premières cohortes de jeunes.
Où se fera cette formation? Dans les salles des cours ou sur le terrain?
Il y a deux aspects dans la formation. Il y a les aspects techniques et les aspects théoriques, bien sûr. Et pour élaborer, vous comprendrez, avec, vous serez d'accord avec moi, pour élaborer un plan d'affaires, vous aurez besoin d'un cadre idéal pour élaborer un plan d'affaires. Donc c'est certainement dans la salle. Mais les aspects techniques, en ce qui concerne la transformation des produits agricoles par exemple, c'est sur terrain. La production, l'élevage, la pisciculture, c'est sur terrain qu'il faut le faire. Donc il y a des aspects qui sont pris en compte dans la mise en œuvre du PEJAB.
Mais ce sont des étudiants, ils n'ont pas encore de ressources, n'ont pas de moyens financiers. Est-ce que l'ITIA prévoit un mécanisme devant permettre à ces jeunes de démarrer leurs activités?
La coordination du projet PEJAB à Kinshasa, au sein du ministère de l'Agriculture, a élaboré un mécanisme de financement. Donc il y a une collaboration entre la coordination du projet PEJAB et la banque. Ce mécanisme de financement permet à ce que la banque puisse donner des crédits aux jeunes sans garantie. C'est en fait ça. La différence aux autres projets qui travaillent dans le même sens que le PEJAB.
Gaylor Nswanda, merci.
Merci beaucoup.